Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, aperçu des messages de l'ONU à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Nous reviendrons sur les manifestations organisées par ONU Femmes au siège de l'organisation à New York, pour ensuite nous rendre à Rome où les agences onusiennes ont souligné l'apport clé des femmes dans les systèmes alimentaires et enfin faire le point avec l'Union interparlementaire sur la représentation politique des femmes.
Welcome to the United Nations observance of International Women's Day 2017.
Les Nations Unies ont marqué la Journée internationale des femmes le 8 mars avec un événement spécial au siège de l'ONU à New York, organisé par ONU Femmes sous le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030 ». Devant une salle enthousiaste et bondée, hommes et femmes ont pris la parole à la tribune pour souligner l'importance du partage des responsabilités domestiques et familiales, à l'instar de l'actrice Anne Hathaway, nommée ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes pour les congés parentaux payés, mais aussi du Premier ministre de l'Islande, pays phare en la matière et lui-même père de 4 enfants en faveur desquels il considère comme un privilège de pouvoir consacrer son temps. Autre participante, Joëlle Tanguy, directrice des partenariats stratégiques pour ONU Femmes. Elle revient d'abord sur le thème retenu cette année pour la journée.
C'est une journée pour honorer les exploits et le potentiel des femmes, mais c'est aussi un moment de réflexion. L'emphase a été mise sur les femmes dans un monde du travail en évolution et quelles mesures devaient être prises. Aujourd'hui, si on devait laisser la lenteur du progrès continuer, à ce rythme, ça nous prendrait plus de 100 ans avant de réaliser l'égalité des chances entre les sexes dans le domaine économique. Et c'est donc là que s'est portée la conversation.
Alors, quels sont les domaines principaux dans lesquels il faut agir ?
Le premier domaine qui a été signalé, c'est résoudre les écarts de rémunération entre les sexes, qui, au niveau mondial, est de 23%. C'est aussi changer pour permettre aux hommes le congé parental, et là où il n'est pas mis en place correctement, permettre aux femmes un vrai congé maternel rémunéré. C'est encore engager les garçons et les hommes dans cette discussion, et c'est peut-être là la teneur un petit peu différente de ce jour, cette année, et à mon avis, dans le futur, c'est que les débats autour de International Women's Day, le jour international des femmes, ne sont plus seulement des questions de femmes, mais des questions de société.
On parle d'accéder aux congés parentaux, de partager différemment les tâches familiales, parentales. C'est des changements de comportement qui commencent dès les premiers âges et à la maison.
Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les hommes doivent faire partie de ce débat, parce qu'ils sont pères et ils participent à la définition des normes dans la famille. Ils accompagnent leurs filles dans le processus de réflexion sur ses rêves et ses ambitions. Et donc, les hommes et les femmes ont un rôle à jouer. Ça commence donc à la maison, ça continue dans le domaine de l'éducation. Mais il ne faut pas aussi oublier le rôle que peuvent jouer de grandes entreprises avec de gros budgets publicitaires dans soit la confirmation des stéréotypes, soit finalement l'ouverture. Donc en fait, ce sont dans tous les domaines de société. C'est pour ça que notre appel aujourd'hui, c'est un appel non seulement aux chefs d'État, mais en fait à tous les acteurs de la société.
Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent agir, comment est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre ces idées chez eux ?
Alors, beaucoup d'options. Ma première proposition, c'est de rejoindre le mouvement He for She, qui aujourd'hui est soutenu par des chefs d'État, par des chefs d'entreprise, et qui finalement demande aux hommes de s'engager. Donc, je les invite à rejoindre heforshe.org et éventuellement prendre des mesures, faire des engagements vis-à-vis du soutien aux femmes, mais aussi, même si vous n'allez pas à l'extérieur, la réflexion est finalement une réflexion qui doit se faire effectivement dans la famille. Pensez l'équilibre des tâches, non pas le jour de la Journée internationale des femmes, mais pensez ça dans sa durée, dans son impact pour les filles, dans les possibilités qui leur sont donc ouvertes ou réduites de faire du sport, de s'engager, de se sentir leader. Et donc c'est l'opportunité ou jamais en fait pour la famille de réfléchir aux normes qui soit nous construisent, soit nous libèrent.
Alors c'est une journée qui célèbre les femmes et qui devient une journée finalement pour tous. Alors au-delà des convictions, pourquoi est-ce que les droits des femmes sont importants et apportent des bénéfices ? Au-delà des bénéfices pour les femmes ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Il y a 20 ans, on aurait parlé de la question des femmes comme une question de droits de l'homme. D'ailleurs, c'était le cas quand les consultations de Pékin se sont passées. Mais aujourd'hui, nous avons vu, dans les dernières années, le monde économique venir au sujet du droit des femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a analysé que les environnements dans lesquels les femmes étaient soutenues, dans lesquels les femmes obtenaient parité, par exemple des entreprises avec une parité entre les sexes, sont des entreprises plus efficaces. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, ce qui mène à ces retards d'évolution depuis 20 ans, malgré les engagements pris année après année, c'est la volonté.
Les agences onusiennes à Rome ont souhaité rappeler au monde entier que les femmes et les filles jouent un rôle primordial dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, non seulement en tant qu'agricultrices, mais aussi en tant que productrices, commerçantes et gestionnaires. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis l'accent sur le rôle stratégique des femmes rurales dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. On écoute Brave Andy Saleh de la division des politiques sociales et des institutions rurales à la FAO au micro de Muriel Sarr.
Les femmes représentent 43% de la population active dans l'agriculture. Cela va de 20% en Amérique latine à 60% en Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est. Les femmes travaillent dans les champs comme agricultrices, ainsi que des transformatrices d'aliments, ainsi que les vendeuses ou commerçantes. Elles travaillent aussi comme ouvrières et manœuvres, sans parler de leurs tâches reproductives et de gestion dans leur foyer. Donc, en donnant un soutien aux femmes rurales, nous pouvons combattre la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. À la FAO, nous nous sommes engagés dans cet effort.
En ce qui concerne les femmes rurales, à quelles questions principales faudrait-il faire face maintenant ?
Tout d'abord, la question d'accès aux ressources productives, telles que l'accès et la propriété des terres. Dans la plupart des cas, les femmes ne sont pas propriétaires ni ne contrôlent les terres. Ainsi, un accès limité à la technologie moderne, les intrants agricoles, les marchés, les services financiers et la formation. Deuxième, il faut développer les capacités en matière de leadership et d'autonomisation pour qu'elles participent aux prises de décisions. Les barrières économiques, sociales et culturelles sont encore fortes pour les femmes. Pour finir, les femmes rurales sont confrontées à la pauvreté et partagent le temps entre le travail productif et reproductif, qui est également très exigeant. Donc, nous devrons les soutenir avec des technologies et des services d'économie du travail.
Que devraient faire les gouvernements ayant de faibles politiques de genre pour aborder ces questions ?
Il serait très important que les gouvernements s'impliquent et s'engagent entièrement dans les recherches d'actions et programmes politiques qui tiennent en compte des préoccupations et des opportunités des femmes rurales. Pour mettre en œuvre avec succès ces politiques et ces programmes, les gouvernements devraient consulter et collaborer avec toutes les parties prenantes au niveau national et local, y compris les femmes elles-mêmes.
Looks like a girl, but she's a flame. On top of the world, hottest of the hottest girls.
2016 n'a pas brillé en matière de l'égalité homme-femme dans les parlements du monde. La moyenne mondiale est passée de 22,6% en 2015 à 23,3% fin 2016, selon l'étude annuelle de l'Union interparlementaire, soit une augmentation de 0,7%. À ce rythme, il faudra un demi-siècle pour atteindre la parité dans les parlements. À l'occasion du 8 mars, l'UIP a donc plaidé pour des mesures plus ambitieuses et une plus grande volonté politique afin d'accroître la représentation politique des femmes. Alpha Diallo a reçu le secrétaire général de l'UIP, Martin Tchungong, dans les studios de l'ONU à Genève.
Pour 2016, il y a eu augmentation des femmes au Parlement, mais le progrès a été très lent. Nous avons assisté à une augmentation uniquement de 0,7% de femmes au Parlement, ce qui est très peu. Et nous pensons donc qu'il faut, en quelque sorte, être plus ambitieux, déployer des moyens et des efforts plus énergiques pour faire accélérer la participation des femmes au Parlement. Parce qu'à ce rythme, nous estimons qu'il nous faudra 50 ans pour atteindre la parité. C'est pas admissible.
Est-ce qu'il y a une région qui est à la traîne, par exemple?
Oui. D'abord, je préfère parler des régions qui sont de bonnes élèves. Nous avons l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe nordique, l'Asie. Et ceux qui sont à la traîne, c'est le monde arabe et les pays du Pacifique. Donc, c'est là où il faut faire de grands efforts. Mais je dois dire aussi que les pays qui sont mauvais élèves sont des petits pays où le Parlement est composé d'une douzaine, d'une vingtaine de parlementaires. Donc, s'il y a revers, cela n'impacte pas sur la moyenne mondiale. Là où il faut consacrer les efforts, c'est dans les grandes démocraties, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et je dois dire que nous avons fait un constat. Il y a comme un essoufflement de la démocratie dans ces vieilles démocraties. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi un pays comme les États-Unis doit occuper la 107e place dans ce palmarès de représentation des femmes au Parlement, alors que ce sont des pays qui ont une vieille tradition de la démocratie. Donc il faut insuffler une nouvelle dynamique dans ces démocraties. Et nous pensons que la représentation des femmes constitue un cadre idoine pour insuffler cette nouvelle dynamique.
Mais quand vous parlez d'essoufflement de ces grandes démocraties, de ces piliers démocratiques, est-ce quelque part on peut arriver à ce schéma où on dit que c'est des régions conservatrices et quelque part, comme l'Amérique latine, on peut dire que c'est des régions progressistes?
Je ne souhaite pas régionaliser le débat parce que nous voyons qu'à l'intérieur des régions, il y a des pays qui se portent très bien. Par exemple, en Europe, dont je déplore un peu le progrès minimaliste des femmes au Parlement, nous avons de bons élèves, par exemple, les pays nordiques, la Suède, l'Islande, la Finlande continuent d'occuper des positions très importantes dans le palmarès. Ils sont parmi les 10 premiers. Donc, c'est possible pour les autres pays de la région de suivre l'exemple de ces pays-là. Donc, pour moi, c'est important de se focaliser sur certains pays qui peuvent faire la différence, qui sont des phares, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, et tous ces grands pays qui ont été aux avant-postes de la démocratie, mais qui sont aujourd'hui à la traîne en ce qui concerne la participation des femmes au Parlement.
On va parler maintenant du continent africain. On parle moins de ce continent. On a l'impression aussi que là-bas, il y a de grosses barrières par rapport à l'émancipation des femmes. Mais on cite beaucoup en exemple le cas du Rwanda. Est-ce qu'un exemple à suivre pour les pays africains?
Le Rwanda continue d'occuper le premier rang dans l'échiquier mondial de représentation des femmes. C'est un exemple que les autres peuvent copier. Mais n'oubliez pas que parmi les 10 premiers, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal. Ça devient une chose de courant que les pays africains puissent faire des progrès en matière de représentation politique des femmes. Donc, ils ont beaucoup à apprendre aux autres démocraties, je pense. Sur ce plan-là, les jeunes démocraties ont tendance à mieux faire en matière de représentation des femmes que les vieilles démocraties. Et c'est ce que nous voyons avec le Rwanda, la Bolivie, Cuba, le Nicaragua, le Sénégal, tous ces pays-là qui occupent des rangs très importants dans le palmarès de représentation des femmes au Parlement.
Est-ce que vous voulez qu'on institue la parité, le quota?
La parité, je l'ai dit, nous avons commis une erreur de dire que nous voulons atteindre la masse critique des 30%. Et c'était très peu ambitieux, cette cible de 30%. Maintenant, nous pensons qu'il faut carrément chercher à atteindre la parité 50-50. Et pour cela, il faut des efforts plus énergiques. Étant donné le rythme auquel la représentation des femmes croît au Parlement, il faut maintenir ces quotas. Il faut même aller un peu plus loin. Il faut les institutionnaliser. Il faut imposer des sanctions et, je dirais, des primes, des mesures incitatives. Nous avons vu que là où les quotas sont rendus obligatoires, il y a une croissance exponentielle des femmes au Parlement. C'est une mesure qui a fait ses preuves et je déplore le fait que sur le plan mondial, par exemple, il n'y a qu'un seul pays qui l'année dernière a adopté des quotas dans sa législation, le Libéria. Il faut que ça soit plus généralisé.
Et c'est avec l'appel à l'instauration de quotas pour avoir plus de femmes dans les parlements, lancé par Martin Chungong, que se referme cette édition d'Escale, consacrée à la réalisation d'une planète 50-50 d'ici 2030. Escale, un magazine hebdomadaire d'ONU Info que vous pouvez retrouver sur notre page internet, nos réseaux sociaux et les ondes de nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.